J'ai toujours cru en ma bonne étoile.
Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Mouhamadou Oumfa, pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 19 juillet 2024. Il est 5h30 temps universel. Voici le sommaire.
Tonight, with faith and devotion, I proudly accept your nomination for President of the United States. Thank you.
Ce soir, avec foi et dévouement, j'accepte fièrement votre désignation à la présidence des États-Unis. Donald Trump est officiellement le candidat du Parti républicain à la présidentielle du 5 novembre 2024. L'ancien président a présenté sa vision de l'Amérique au dernier jour de la convention de son parti à Milwaukee. Nous retrouverons sur place notre envoyé spécial dès le début de ce journal. Dans le camp démocrate, la pression s'accentue sur le président Joe Biden pour qu'il renonce à sa candidature. Il est toujours à l'isolement après avoir été testé positif au Covid-19 mercredi. Au Kenya, la justice suspend l'interdiction des manifestations dans le centre de Nairobi, décrétée par la police. Au Nigeria, le président Bola Tinubu augmente le salaire minimum dans le secteur public, quelques semaines après un vaste mouvement contre la vie chère. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Eric Manirakiza et les sports présentés par Yakuba Ouedraogo. Mais pour commencer, le journal. On commence par l'actualité américaine. Hier soir, au quatrième et dernier jour de la convention du Parti républicain à Milwaukee, dans le Wisconsin, l'ancien président Donald Trump a formellement accepté d'être le candidat de son parti à la présidentielle du 5 novembre 2024. Dilly Dico, notre envoyée spéciale, était présente et nous la retrouvons à Milwaukee. Salut Dilly.
Bonsoir Mamadou, comment ça va?
Très bien, merci. Alors Dilly, quelle était l'ambiance dans cette salle de convention du Parti républicain?
L'ambiance était absolument électrique ici. Il y a un peu plus d'une heure, là ça s'est un petit peu calmé. Les partisans de Donald Trump, les républicains qui sont venus à la convention ici étaient absolument galvanisés par les propos des intervenants, mais en particulier par ceux de Donald Trump. Ils ont suivi attentivement le discours et réagi avec des cris et des applaudissements tout le long. Et donc, pour en rajouter à cette ambiance-là, surtout vers la fin, il y a eu un jeté de ballons, des ballons couleur des États-Unis et des ballons dorés et beaucoup de musique. Voilà. Et les participants étaient très contents. On en a interviewé beaucoup après, à la fin de la convention, et ils nous ont dit qu'ils ont trouvé le discours de Donald Trump excellent.
Oui, alors Dilly, le président Biden a prononcé, le président Trump a prononcé un très long discours. Qu'est-ce qu'il faut retenir?
Alors, le candidat Donald Trump a prononcé son discours et ce qui est important, c'est qu'il a accepté de devenir le candidat républicain à la présidentielle du 5 novembre. Donc ça, c'est le fond du discours. Et après, il a également relaté les événements de samedi en Pennsylvanie lorsqu'un tireur lui a tiré dessus. Et donc, il n'a pas hésité à donner beaucoup de détails. Il a parlé du moment où la balle a touché son oreille, du moment où il s'est retrouvé par terre, lorsque les membres des services secrets l'ont protégé avec leur corps. Il a remercié les membres des services secrets. Et il a également parlé du moment où il a levé son poing en l'air et il a commencé à crier « fight, fight, fight ». Voilà. Donc, il a vraiment donné énormément de détails pendant 15 minutes sur ce moment-là et il a dit « Écoutez bien parce que je ne vais en parler qu'une seule fois ». Et donc, voilà, Donald Trump a rendu grâce à Dieu. Il a dit « Je n'étais pas censé être là, mais par la grâce de Dieu, par la volonté de Dieu, je suis là aujourd'hui ». Et bien sûr, la salle a réagi, tout le monde criait, tous les partisans de Donald Trump, voilà. Aussi, au-delà de ça, Donald Trump, de ce moment-là, il a relaté, Donald Trump a donné beaucoup il a critiqué, en fait, le bilan de Joe Biden et il a promis que pendant les 4 prochaines années, s'il devient président, il a avancé des idées très populistes, il a promis aux Américains de remettre de l'argent dans leur poche et voilà, de faire en sorte que la vie soit tout moins chère.
Merci
donc l'économie était vraiment au cœur également.
Merci beaucoup, Dili, envoyé spécial de VOA Africa Milwaukee. Vos reportages et interviews seront disponibles sur le site web de VOA Afrique. Pendant ce temps, chez les démocrates, le président Joe Biden a toujours de légers symptômes du COVID-19, un jour après avoir été testé positif, selon son médecin. Une partie des démocrates, selon plusieurs médias, continue de faire pression pour qu'il se retire de la course à la Maison-Blanche. Jacques Aristide.
Atteint du Covid, le président démocrate de 81 ans s'est vu contraint de s'isoler et de mettre sur pause sa campagne électorale. Dans une lettre publiée hier, son médecin, le docteur Kevin O'Connor, écrit que Joe Biden a toujours de légers symptômes au niveau des voies respiratoires supérieures liées à sa récente infection. Il n'a pas de fièvre et ses signes vitaux demeurent normaux, ajoute le docteur O'Connor. Selon le Washington Post, l'ancien président Barack Obama a dit à des proches que l'actuel locataire de la Maison Blanche devrait évaluer sérieusement la viabilité de sa candidature à la présidentielle de novembre. Le journal la précise que l'ancien président Obama, dont Joe Biden a été le vice-président, n'a pas réagi à cette information. Toujours d'après ces médias, les leaders démocrates au Congrès, Chuck Schumer et Hakeem Jeffries, ont tous deux dit au président, lors de rencontres séparées, que sa candidature pourrait mettre en péril les chances du parti en novembre. Quant à la très influente Nancy Pelosi, ancienne présidente de la Chambre des représentants, elle a, selon CNN, affirmé au président Biden qu'il ne pouvait pas gagner au vu des sondages et qu'il risquait de faire perdre la Chambre aux démocrates.
La campagne de Donald Trump ne changera pas fondamentalement si Joe Biden se retire, a assuré jeudi Jason Miller, un des proches conseillers du candidat républicain. Que cela soit Joe Biden, Kamala Harris ou un autre démocrate de la gauche radicale, ils sont tous responsables de la destruction de notre économie et du délitement de nos frontières, a-t-il déclaré, en marge de la convention républicaine de Milwaukee.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité africaine à présent, la justice kényane a suspendu hier l'interdiction des manifestations dans le centre de Nairobi, décrétée la veille par la police. Cette décision intervient après des protestations antigouvernementales meurtrières contre un projet de hausse des impôts, finalement abandonné par le gouvernement. Nani Talani.
Mercredi, la police kényane a annoncé qu'aucune manifestation ne serait autorisée dans la capitale et ses environs afin de garantir la sécurité du public. Mais hier, un juge de la haute cour de Nairobi a émis une ordonnance conservatoire pour empêcher l'application de cette interdiction dans l'attente d'une décision finale. La cour a indiqué qu'elle tiendrait une nouvelle audience le 29 juillet. Dans sa déclaration, la police précisait avoir décidé d'interdire les manifs après avoir reçu des informations crédibles selon lesquelles des groupes criminels organisés prévoyaient de tirer profit des manifestations en cours. Les manifestants ont de leur côté accusé des voyous d'avoir utilisé leur rassemblement pour provoquer des violences. Initialement pacifiques, les rassemblements ont dégénéré en violences qui ont fait au moins 50 morts depuis le 18 juin, selon la Commission nationale des droits de l'homme du Kenya. Les groupes de défense des droits ont accusé la police de faire un usage disproportionné de la force, notamment le 25 juin, lorsque les manifestants ont pris d'assaut le Parlement et la police avait ouvert le feu à base réelle. Le président William Ruto est revenu sur des projets de hausse de taxes et a limogé la quasi-totalité de son cabinet, promettant des coupes dans les budgets gouvernementaux. Mais les manifestants appellent à la démission du président.
Au Nigeria, le président Bola Ahmed Tinubu a plus que doublé le salaire minimum mensuel dans le secteur public. Cette mesure intervient quelques semaines après un vaste mouvement social contre la forte hausse du coût de la vie. Claire Mourangibourg.
La décision s'applique aux employés fédéraux, aux fonctionnaires, au personnel des aéroports et aux enseignants du public qui toucheront désormais un salaire minimum de 70 000 naira. Bayo Onanuga, le conseiller média du président, a précisé que cette décision a été prise par Bola Tinubu lors d'une réunion avec les dirigeants syndicaux à Abuja. Le président nigérian a aussi promis d'aider le secteur privé et les collectivités territoriales à payer le salaire minimum, a ajouté M. Onanuga. Joe Ajaero, le dirigeant du principal syndicat nigérian, le Congrès du travail du Nigeria, a indiqué accueillir cette annonce avec des sentiments mitigés au vu de la situation économique. L'augmentation du salaire minimum public, qui était jusque-là de 30 000 naira, environ 17 euros, est bien inférieur aux exigences des syndicats qui réclamaient de le porter jusqu'à 250 000 naira, près de 140 euros. L'inflation a atteint des niveaux records à près de 34% en mai, avec une hausse du prix des denrées alimentaires depuis la fin des subventions sur le carburant annoncée par le président Tinubu dès son arrivée au pouvoir.
Au Cameroun, le gouvernement a dénoncé jeudi la montée des propos injurieux contre les institutions et ceux qui les incarnent, venant de concitoyens et de leaders politiques dans la perspective de l'élection présidentielle de 2025. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Eric Manirakiza.
Longtemps centrée sur l'agriculture et notamment la production de cacao, l'économie ivoirienne se tourne ces dernières années vers les richesses de son sous-sol, avec la découverte d'importants gisements de pétrole et de gaz, mais aussi de plusieurs minéraux. Trois découvertes de gisements en septembre 2021, juillet 2022 et février 2024, dont les réserves sont estimées à 6 milliards de barils, font miroiter au pays de devenir exportateur net de pétrole brut d'ici la fin de la décennie. L'économie américaine a récemment montré des signes de ralentissement selon un rapport publié mercredi par la Banque centrale américaine Fed. Mais sur les 12 régions que compte la Fed, 5 ont noté une activité stable ou en baisse. La pénurie de main-d'œuvre qui avait débuté en 2021 lors du redressement économique post-Covid semble se résorber. Le taux de chômage aux États-Unis était en juin de 4,1%, toujours parmi les plus bas des 50 dernières années.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Yacouba Ouedraogo. Salut Yacouba.
Bonjour Mohamedou, bonjour à tous.
Serou Guirassy signe avec Dortmund jusqu'en 2028.
Oui, le Borussia Dortmund a officialisé l'arrivée de l'attaquant guinéen convoité de longue date par le club allemand. Après une excellente saison à Stuttgart, Serou Guirassy s'est engagé jusqu'en juin 2028 avec le Borussia, qui a déboursé 18 millions d'euros pour sa clause libératoire d'après les médias allemands. Le transfert du joueur de 28 ans avait d'abord été retardé en raison d'une blessure découverte pendant la visite médicale début juillet qui a nécessité des examens complémentaires. Mais Dortmund a précisé sur son site que la blessure n'entraînerait pas d'opération et les médecins du club estiment que Guirassy pourra être opérationnel cet été après une remise à niveau. Avec 28 buts pour autant de matchs disputés, le Guinéen a fini meilleur buteur de la saison derrière l'anglais Harry Kane du Bayern Munich. Guirassy retrouve à Dortmund l'ivoirien Sébastien Haller.
Toujours sur le marché des transferts, Pierre-Éric Aubameyang rejoint un club saoudien.
L'attaquant gabonais de 35 ans qui a officialisé mercredi son départ de l'Olympique de Marseille va signer à l'équipe saoudienne d'Al-Qassia selon les deux clubs. Protégez vos filets, la panthère noire est là, a réagi le club saoudien, juste promu en première division sur son compte Instagram, en référence au surnom de Pierre-Emerick Aubameyang. Sur X, l'OM a remercié son désormais ex-joueur, toujours souriant et travailleur qui a brillé par son talent au cours de l'exercice 2023-2024. Aubameyang était arrivé libre à Marseille à l'été 2023 en provenance de Chelsea. Malgré une saison décevante de l'OM avec une 8e place en championnat et de multiples changements d'entraîneur, l'attaquant gabonais a surnagé avec 30 buts et 11 passes décisives, toutes compétitions confondues.
Et puis Patrick Vieira n'est plus entraîneur de Strasbourg.
Le technicien français, arrivé l'été dernier, n'est plus entraîneur du Racing Club de Strasbourg, qui a mis fin d'un commun accord à son contrat, a indiqué le club dans un communiqué. Le championnat de France reprend le week-end du 17 août avec une rencontre entre Strasbourg, qui a fini 13e de Ligue 1 lors de la dernière saison, et Montpellier. L'ensemble du club remercie chaleureusement Patrick Vieira pour son engagement irréprochable dans une saison de transition, détaille à Strasbourg, alors que le technicien de 48 ans était sous contrat jusqu'en 2026. L'ancien international français qui a entraîné New York City en MLS de 2016 à 2018 est pressenti pour devenir sélectionneur des États-Unis, selon plusieurs médias.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouhamadou Oumpa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. Un nouveau groupe de policiers kényans est arrivé cette semaine en Haïti dans le cadre de la mission multinationale d'appui à la sécurité dans le pays des Caraïbes. Mercredi, les autorités haïtiennes ont décrété l'état d'urgence sécuritaire au niveau de 14 communes qui sont sous le contrôle des gangs. Pour un éclairage sur la situation à Port-au-Prince, Gabi Dorcy l'a joint le journaliste Yves Manuel.
Il y a eu beaucoup de réactions après l'appel du chef du gouvernement concernant la nécessité de déposer les armes, notamment les groupes armés. Cet appel est bien accueilli par certains, notamment ceux qui habitent dans les quartiers populaires ou sont contrôlés par des groupes armés. Le premier ministre a passé de la parole aux actes parce que et justement, là où ils habitent, ils sont cloîtrés, ils ne peuvent pas circuler librement. Donc, ils ont besoin qu'il y ait des interventions musclées dans ces quartiers afin qu'ils puissent vaquer librement à leur occupation.
Un nouveau contingent de policiers kényans, Yves Manuel, est arrivé dans la capitale haïtienne cette semaine. Parlez-nous un peu de la posture de ces agents. Où sont-ils? Que font-ils?
Bon, jusqu'à présent, les agents kényans commencent à patrouiller et certaines rues de la capitale haïtienne. Par exemple, hier, ils ont été au Champ de Mars, là où est logé le palais présidentiel, donc le palais national. Ils ont patrouillé diverses rues, notamment au bas de la ville. Donc, les gangs armés ont échangé avec eux, mais jusque-là, on n'a pas encore eu de bilan. Donc, les policiers progressent. Donc, c'est ce que souhaite la population. Donc il faut que les forces armées accompagnées des policiers kényans pénètrent dans des quartiers pour faciliter la libre circulation, la circulation des vies et des personnes. Donc on a constaté la présence des policiers sur le terrain. Donc on a demandé ça du côté de la population et donc ça commence à prendre de l'ampleur, hein, si je peux le dire ainsi.
Comment décrire le climat sécuritaire en Haïti? On a appris qu'il y a des groupes armés, des gangs comme on les appelle, qui ont laissé la région métropolitaine de Port-au-Prince pour aller mener leurs opérations ailleurs. Qu'en est-il exactement?
Bon, le climat sécuritaire est encore instable. Certes, il y a certains éléments armés qui commencent à quitter la capitale pour aller se réfugier dans les villes de province, mais il y en a beaucoup qui ont le contrôle de certains quartiers, notamment dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Ils kidnappent, ils tuent et ils les stockent à longueur de journée. Ils continuent leur exaction sur la population. En fait, je peux dire que on attend qu'il y ait des opérations. Certains disent que les gangs sont mieux armés et peuvent éventuellement faire face, hein. Donc on attend dans les jours qui viennent qu'est-ce que ça va donner, les affrontements sur le terrain entre les gangs armés et les policiers, que ce soit haïtiens ou et d'autres policiers, notamment qui font partie de la force multinationale de sécurité en Haïti.
C'était le journaliste Yves Manuel, joint à Port-au-Prince par Gabi Dorcil. Au Nigeria, la population est en passe d'atteindre 377 millions de personnes d'ici 2050, ce qui souligne le besoin urgent de services de santé reproductive, mais les barrières culturelles et religieuses compliquent souvent l'accès à la contraception, ce qui pose des problèmes économiques et de santé maternelle. Reportage à Abuja de Gibson Emeka Godwin, récit Claire Morin-Gibourg.
La population du Nigeria augmente rapidement et les services de planification familiale sont à la traîne. Les préférences culturelles et religieuses ainsi que les idées fausses sur le contrôle des naissances ne font qu'aggraver la situation. Philomena Okodua connaît bien ces défis. Autrefois opposée au planning familial, elle subvient aujourd'hui aux besoins de 6 enfants avec les maigres revenus qu'elle tire de son petit commerce. Elle regrette de ne pas avoir adopté le planning familial plus tôt.
Les choses vont très mal pour nous. Même pour répondre aux besoins de base, c'est une lutte. J'aurais aimé connaître les plannings familiales plus tôt. Je n'aurais pas eu autant d'enfants, mais peut-être 2 ou 3.
Selon la Banque mondiale, le taux de natalité du Nigeria est de 5,3 naissances par femme, ce qui est beaucoup plus élevé que la moyenne mondiale. De plus, 23% des femmes mariées ne disposent pas de moyens de contraception, selon l'Institut Guttmacher. La religion, la culture et l'accès limité constituent également des obstacles. Kanon Doda, un religieux chrétien, et Ejike Orji, un défenseur du planning familial, expliquent comment ces facteurs influencent les décisions. Kanon Daoda.
Certains croient que l'on donne naissance à tout ce que l'on peut et que Dieu va pourvoir aux besoins de tout ce qu'il permet de faire vivre.
Monsieur Orji, lui, souligne que les Nigérians ont du mal à trouver des contraceptifs.
Les femmes nigériennes disent « je veux un planning familial », mais elles ne bénéficient pas de ces services. À l'heure où nous parlons, parce que le gouvernement fédéral n'a pas débloqué d'argent pour l'achat des produits, il n'y a plus de stock dans tout le pays.
La Journée mondiale de la population 2024 promeut la planification familiale en tant que droit humain. Monsieur Orji rappelle que les obstacles au contrôle des naissances violent les droits des femmes et augmentent les risques pour la santé maternelle.
En raison de l'absence des services de planification familiale appropriés, beaucoup de femmes ont des grossesses qu'elles ne souhaitent pas. Nous avons également constaté que si les femmes ont souvent des enfants, leur corps ne se rétablit pas correctement car beaucoup de nos femmes souffrent d'anémie. La seule chose qui puisse mettre fin à tout cela, ce sont des services de planification appropriés.
Le plan du gouvernement nigérian vise à faire passer le taux d'utilisation des contraceptifs de 19% à 27% dans les années à venir, mais des ressources supplémentaires sont nécessaires. Selon les experts, l'amélioration du financement et de l'accès aux contraceptifs peut réduire considérablement la mortalité maternelle et renforcer l'autonomie des femmes et ainsi du pays tout entier.
La Libye, qui recevait plus de 706 000 migrants en janvier, selon l'Organisation internationale des migrations, a accueilli hier le forum transméditerranéen sur les migrations dans sa capitale Tripoli, avec au menu la crise migratoire en cours dans la région méditerranéenne. Ce forum visait à trouver les solutions durables aux défis posés par les flux migratoires de l'Afrique vers l'Europe. Plus de détails avec Nani Talani.
Dans son discours, le Premier ministre libyen Abdul Hamid al-Dabaïba a souligné l'immense pression à laquelle la Libye est confrontée. Selon l'OIM, son pays a accueilli plus de 706 000 migrants en janvier.
L'Europe utilise tous les moyens et toutes les méthodes pour empêcher les migrants d'arriver. L'Afrique, depuis le sud, pousse ces personnes qui sont dans le besoin, qui souffrent de la soif, de la faim et du manque de moyens de subsistance et qui cherchent une vie meilleure. Nous nous trouvons en Libye sous la pression du nord et du sud.
Monsieur Dabaïba a critiqué l'approche actuelle qui se concentre sur le contrôle des frontières et les centres de détention. Il a fait valoir que les ressources financières considérables consacrées à ces mesures depuis plus de 50 ans n'ont pas résolu le problème.
L'argent utilisé pour les sauvetages doit être dépensé dans les pays africains et chez les personnes là-bas qui envoient des migrants. Il ne doit pas être dépensé en mer dans des bateaux de sauvetage, dans le désert ou dans des centres de détention en Libye ou en Europe.
Giorgia Meloni, chef du gouvernement italien, a qualifié la traite des êtres humains comme l'un des plus puissants trafics criminels au monde, qui permet à certains de gagner beaucoup d'argent en vivant sur le désespoir des personnes. L'immigration clandestine est l'ennemi de l'immigration légale, selon Madame Meloni.
La chose la plus importante que nous devons faire est de créer une nouvelle coopération entre l'Europe et l'Afrique. Je ne pense pas que l'approche de la charité soit la bonne. Je ne pense pas que l'approche caritative soit la bonne. L'approche prédatrice n'est certainement pas la bonne. La bonne façon de coopérer est une coopération d'égal à égal.
Le ministre d'État libyen en charge de la communication, Walid Elafi, a proposé d'investir directement dans le développement des pays africains.
Le développement est lié au soutien économique. Le marché du travail en Afrique est lié à des projets, mais les Européens estiment que les projets doivent être économiquement viables et réalisables. Les projets sont abordés d'un point de vue économique et non politique.
La chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a soutenu que la situation ne peut être résolue sans s'attaquer aux problèmes dans les pays d'origine. En s'attaquant à la pauvreté, à l'instabilité et au manque d'opportunités à la source, les causes profondes de la migration pourraient être traitées plus efficacement.
Au Togo, les autorités sanitaires sont en alerte après que des cas suspects de décès causés par la dengue ont été signalés dans le pays. Des investigations se poursuivent pour une détection continue des cas en vue de la prise en charge précoce. Une campagne également menée pour sensibiliser la population sur cette maladie. Les précisions avec notre correspondante à Lomé, Amène Assignon.
Dans les centres de santé, la surveillance a doublé depuis que des cas de dengue ont été récemment signalés dans le pays. Cette maladie infectieuse, virale, qui semble s'apparenter au paludisme, est aussi transmise par le moustique, connu sous le nom de moustique tigre. Cependant, ses symptômes sont très variables et se présentent sous deux aspects, la forme classique et la forme hémorragique, qui peut être mortelle lorsqu'elle n'est pas traitée à temps.
On peut avoir des saignements un peu partout au niveau de l'organisme et des saignements lors des vomissements, des diarrhées, ainsi de suite. Vous pouvez avoir aussi des signes plus graves aussi liés à une insuffisance rénale, par exemple, hépatique et ainsi de suite. Donc ça, c'est des cas de gravité.
Ce patient qui a souhaité garder l'anonymat a lui aussi contracté la dengue. Au début, il avait pensé souffrir de paludisme. Mais une fois à l'hôpital, il s'est rendu compte de son état.
Ça a commencé par une forte fièvre, des courbatures. Je me suis dit que c'était le paludisme, puisque c'est la période des pluies et qu'il y a des moustiques. J'ai commencé le traitement, mais mon état ne s'est pas amélioré. Je me sentais très faible. C'est à ce moment que j'ai décidé d'aller à l'hôpital et c'est là qu'on m'a dit que j'avais la dengue.
À ce jour, le bilan épidémiologique fait état de plus de 800 cas de dengue suspectés, près de 400 cas confirmés et 3 décès enregistrés. Les autorités sanitaires appellent à la vigilance et à l'observation de mesures préventives.
L'idéal pour la prévention, c'est éviter les piqûres de moustiques. Absolument. Éviter les piqûres de moustiques. Dans notre environnement, que ce soit professionnel ou domestique, il faut forcément être adepte à l'hygiène. Donc rendre bien propre son environnement, éviter d'avoir de l'eau stagnante, tout ça il faut les détruire. Il faut nécessairement dormir dans une moustiquaire imprégnée d'insecticides.
La détection précoce de la dengue est essentielle. Au Togo, un plan national de riposte a été mis en place pour renforcer la surveillance, la sensibilisation, la logistique pour une prise en charge efficace de la maladie.
Par rapport à la prise en charge, les dispositions sont données dans les différents hôpitaux avec comment il faut prendre en charge ces cas. En fait, la prise en charge, elle est symptomatique. Et seulement qu'il y a deux types de dengue. Donc, par rapport à tout ça, là, les dispositions sont faites. Soit c'est la réhydratation, soit c'est la transfusion. Et nous pouvons dire que la situation est quand même maîtrisée pour le moment.
Selon l'OMS, plus de la moitié de la population mondiale serait affectée par la dengue. Elle alerte sur le risque d'une expansion sans limite de la maladie. Amène Assignon pour VOA Afrique, Lomé.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mouamadou Oumfa, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voaafrique.com, sans oublier nos plateformes digitales, Facebook, YouTube et X, autrefois Twitter. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA. À très bientôt.
Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone.
à Ouagadougou sur 102.4 FM. À Douala, Radio Balafon. Raga FM, Kisangani. À Zinde, Niger, Enfani FM et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.